Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission Méninges à 3 qui se fait à Veyro avec nos amis de Radio Temps Rodez et Radio Saint-Afrique. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
Bonjour Manu.
Bonjour, là je suis surpris, c'est mon stylo qui fait des siennes et qui a jeté la mine par-dessus le micro.
Alors vous avez fait le voyage jusqu'à Veyro, c'est bien sympa de votre part, hein. Vous connaissiez Veyro ?
Alors, pour ma part, on a fait une petite balade découverte avec Monsieur le Maire il y a quelques temps de cela sur notre antenne, dans le cadre de Bonjour Monsieur le Maire. Ceci dit, je ne connaissais pas la route que j'ai empruntée juste pour venir, donc je vous la conseille, peut-être par beau temps et surtout pas en caravane. Hein. Ou alors vous êtes un as de la manœuvre. Hein. Donc vous passez par les gorges de la Jonte, enfin en venant en tout cas du nord, de Rodez, le Massegros, Boyne, le Rosier, une partie des gorges de la Jonte. Et juste après le belvédère des Vautours, c'est entre les 12 et le belvédère des Vautours, cette route est exceptionnelle. Hein, franchement, mais attention, là elle est glissante, hein, donc voilà, précipice en vue.
Manu, tu étais déjà venu à Veyro ?
Oui, j'ai parcouru le Causse à l'époque où j'étais spéléo, donc j'ai dû passer par là, je ne m'en rappelle pas.
Mais il a gardé le casque d'ailleurs.
Hein, j'ai gardé le casque.
Ouais. Oui, parce que, alors on précise hein, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Veyro, que Veyro est sur le Causse Noir, donc le Causse Noir, un Causse voisin de chez nous, Radio Larzac. C'est précisément entre le Causse du Larzac et le Causse Méjean. D'ailleurs, c'est un endroit où il y a beaucoup de spéléos, c'est un endroit très riche en histoire, et ça remonte à très loin, hein. L'habitation sur le Causse Noir, c'est...
Il y a des traoques dans le secteur. Hein.
Voilà, 3-4 000 ans avant notre ère. Pour démarrer cette émission, déjà une petite info, pour le suivi de notre émission Méninges à 3,
dossiers.
C'est vrai qu'à l'époque, on avait parlé de ce qui se passait à La Loco à Millau, un café-concert qui était très embêté, on va dire, par ses voisins, une association
des
de voisins.
Des mauvais coucheurs, quoi.
Des mauvais coucheurs, appelons-les comme ça. Et il y a eu un procès et le délibéré du tribunal de Millau la semaine dernière a complètement acquitté le propriétaire, le gérant de La Loco en disant qu'il n'y avait aucun lieu de poursuivre le gérant puisqu'il avait les autorisations municipales nécessaires et qu'il pouvait très bien faire du bruit, peu de bruit d'ailleurs, ce jour-là. Voilà.
La Loco donc va continuer à siffler au moins 3 fois ou 4.
Ah, il reste sur la défensive encore, hein, on ne sait jamais. Les voisins sont toujours des mauvais coucheurs. Je vous propose de démarrer cette émission pour une fois. Hein, ce n'est pas les invités qui vont commencer. Moi, j'avais envie de vous parler puisqu'on est à Veyro. On est sur le canton de Peyrelos. Peyrelos qui est dans la vallée du Tarn, puisque c'est à Peyrelos, le Rosier, que la Jonte commence. Mais c'est à peu près... à l'embranchement, on va dire, canton de Peyrelos. Et là, à Peyrelos, il y a la Ligue de protection des oiseaux qui s'occupe des rapaces et de la réintroduction des rapaces. Donc on a eu une réintroduction de vautours fauves. Et là, ils s'apprêtent à réintroduire le gypaète barbu. Ils n'ont d'ailleurs pas pu venir dans notre émission puisqu'ils sont très occupés. Et j'ai eu Raphaël Neus au téléphone.
C'est un programme qui est donc mené par la LPO Grand Causse. LPO Grand Causse, c'est une antenne de la LPO France qui est basée à Peyrelos, au cœur des Grands Causses et des gorges de la Jonte et du Tarn, et qui gère les programmes de conservation des grands rapaces et des vautours en particulier. Donc le programme de réintroduction du gypaète barbu, il s'intègre dans l'ensemble de ces programmes-là comme la fin, puisque c'est la dernière espèce qui n'était pas présente dans les Grands Causses, puisque il y a 4 vautours en Europe, le vautour fauve, le vautour moine, le vautour percnoptère et le gypaète barbu. Et donc on a déjà les 3 premiers dans les Grands Causses. Et donc la finalisation de cette cohorte, comme on l'appelle, c'est l'arrivée du gypaète barbu.
Quelles sont les spécificités du gypaète barbu ?
Alors le gypaète, c'est déjà le plus grand rapace d'Europe. C'est un oiseau qui mesure 3 mètres d'envergure. C'est un planeur un peu spécialiste des extrêmes qui ne consomme que des os. C'est ce qui fait sa particularité. Et c'est ce qui fait aussi qu'il est dans le bout de cette chaîne des nécrophages, des rapaces nécrophages, puisque les autres vautours consomment sur une carcasse les chairs molles, les chairs plus cartilagineuses, et lui va finir le travail en consommant les os.
Et qu'est-ce qu'un programme de réintroduction finalement ?
Alors un programme de réintroduction, c'est l'ensemble des éléments qui permettent d'arriver à ce que des oiseaux de cette espèce soient lâchés dans la nature et que, après ce lâcher, tous les éléments soient mis en œuvre pour que l'espèce soit conservée et se reproduise dans ce milieu naturel. Donc c'est à la fois un programme qui vise à relâcher les oiseaux, mais aussi ce sera suivi d'un programme de conservation qui visera à conserver en bon état cette population qu'on va essayer de reconstruire.
Et très concrètement, comment vous opérez et alors, où est-ce que vous en êtes ?
Très concrètement, les oiseaux vont être relâchés selon la technique dite du taquet. Alors c'est un terme un petit peu technique qui veut simplement dire qu'on va mettre dans une cavité naturelle, un site naturel qui ressemble à un nid de gibier de barbu. On va mettre là-dedans, selon les années, 3 ou 2 jeunes gibiers. Alors 3 ou 2, ce sera en fonction de la disponibilité des oiseaux pour le programme.
D'où est-ce qu'ils viennent ces oiseaux ?
Alors ces oiseaux, ils sont produits en captivité par un réseau de zoos et de centres d'élevage spécialisés qui sont répartis un peu dans toute l'Europe, quelques-uns en Asie aussi. Et donc il y a, si ma mémoire est bonne, 36 couples de gibiers barbus qui se reproduisent en captivité dans ce réseau et qui produisent chaque année entre 15 et 20 jeunes. Et ces jeunes sont utilisés dans les programmes de réintroduction pour cette espèce en Europe. Donc en même temps que le programme de réintroduction dans les grands causses, il y en a un qui est conduit déjà depuis plusieurs années en Autriche, en Suisse, dans les Alpes françaises, dans le Mercantour et dans le Vercors, et un dernier en Andalousie.
Et là, combien vont être relâchés ?
Alors, dans les grands causses, ce seront 3 jeunes gibiers cette année, si évidemment l'ensemble des étapes administratives aboutissent au fait qu'on puisse effectivement les lâcher cette année en 2012.
Ah, c'est pas acquis ça ?
Ça n'est pas acquis, non, pour l'instant. Il y a un certain nombre d'étapes un petit peu compliquées, au sens où il faut obtenir les autorisations nécessaires, puisqu'on est dans le cadre d'une espèce protégée. Et donc, ça passe par un certain nombre d'étapes, notamment la validation du projet par le Conseil national de protection de la nature, la validation du projet par le ministère, pour une espèce qui fait l'objet d'un plan national d'action au niveau français, et puis ensuite un arrêté préfectoral. Enfin, donc il y a un certain nombre d'étapes qui sont en cours, hein, donc qui vont, on l'espère, aboutir et nous permettre de relâcher ces oiseaux en 2012. Alors si ça ne se fait pas en 2012, eh bien, ça se fera en 2013, voilà, tout simplement.
Vous espérez que ça se fasse très prochainement ou...
Alors effectivement, comme je vous disais qu'on va placer des jeunes oiseaux dans une cavité naturelle, et ces jeunes oiseaux, on va les placer à l'âge de 3 mois, parce qu'à cet âge-là, ils sont suffisamment âgés pour pouvoir se nourrir seuls. On va leur apporter de la nourriture dans cette cavité, mais ils vont pouvoir eux-mêmes prendre cette nourriture, donc des petits morceaux d'os. Mais à cet âge-là, ils ne sont pas encore volants. Donc ils vont rester dans cette cavité 3 semaines, 1 mois, avant d'atteindre l'âge où ils vont pouvoir s'envoler. Et ils vont prendre cet envol de leur propre initiative. Et ils vont évoluer pour la première fois en l'air au-dessus des grands causses. Et ils vont intégrer ce massif comme étant leur lieu de naissance. C'est tout l'intérêt de cette technique, c'est qu'on a des jeunes oiseaux élevés en captivité, mais qui sont relâchés très jeunes sur un massif et ils intègrent ce massif comme leur lieu de naissance. Donc cette technique a déjà fonctionné pendant de nombreuses années dans les Alpes et les oiseaux reviennent se reproduire sur le massif de leur relâché.
Et pour les mettre dans ces cavités, vous avez besoin au préalable de ces autorisations ?
Absolument.
Oui.
Je reprends le fil de mes explications.
Oui.
Et donc, si on n'avait pas les autorisations à temps, les oiseaux, ils prennent de l'âge tous les jours, là, en ce moment.
Oui.
S'ils dépassent l'âge de 3 mois, ben, on ne pourra pas lâcher ceux-là cette année. Il faudra, avec les autorisations qu'on a, qu'on attende l'année prochaine pour lâcher des oiseaux qui auront 3 mois.
Et est-ce qu'il est possible qu'un programme comme celui-ci échoue ? Et à quelles conditions ? Quels sont les éléments, en fait, pour qu'il réussisse plutôt, on va dire, positivement.
D'accord. Il a été donné 2 objectifs à ce programme. Ce programme, c'est la continuité du programme de réintroduction de cette espèce, le gibier barbu, dans les Alpes. Alors, pourquoi la continuité des Alpes dans le Massif central ? Tout simplement parce que l'idée, c'est de relier la population alpine à la population pyrénéenne. Et le meilleur pont qu'on ait pu trouver entre ces deux massifs, c'est le massif central. Donc il y a un certain nombre d'étapes qui ont précédé, notamment un programme équivalent dans le Vercors, et puis un certain nombre d'actions dans l'Aude pour essayer d'attirer vers le massif central les gypaètes barbus des Pyrénées. Et on va dire la clé de voûte de ce corridor entre les Alpes et les Pyrénées, ça devrait être donc le projet dans les Grands Causses. Donc ça c'est le premier objectif. Donc les jeunes oiseaux qui seront relâchés cette année ou l'année prochaine vont s'envoler. C'est une espèce qui atteint sa maturité sexuelle que vers 7 ou 8 ans, donc avant cet âge-là, c'est des oiseaux qui vont beaucoup se promener. On appelle ça de l'ératisme juvénile, c'est-à-dire que c'est des oiseaux qui vont voyager, explorer un petit peu leur environnement, et on espère que à l'occasion de ces voyages, ils vont relier les Alpes et les Pyrénées et attirer avec eux d'autres gypaètes pour faire cette traversée.
Il n'y a pas un risque qu'ils restent avec leurs congénères ?
Ça pourrait très bien arriver, effectivement, mais ce ne serait pas vraiment un problème parce que les individus ne seraient pas perdus. S'ils s'installaient dans d'autres colonies, ben, ils renforceraient ces colonies, mais pas dans les Grands Causses. Alors ça nous amène au deuxième objectif du projet, qui est de bâtir une colonie reproductrice dans les Grands Causses. Alors, le gypaète barbu, c'est une espèce qui, alors là je parle de colonie, mais qui est plutôt assez territoriale et qui va utiliser un territoire assez grand. Donc les perspectives de nombre de couples de gypaètes dans les Grands Causses, si tout allait très bien, puisqu'on parlait de succès du programme, ce serait que dans 20 ou 30 ans, on ait 2, 3 ou 4 couples de gypaètes dans les Grands Causses. Mmh. On est à ce genre d'échelle. Le potentiel d'accueil de l'ensemble des Grands Causses, c'est 8 à 9 couples maximum pour cette espèce. Parce que chaque couple a un territoire très grand et il n'y a pas la place pour plus.
Mais il resterait rare, contrairement aux vautours fauves, par exemple.
Alors, c'est deux espèces qui fonctionnent tout à fait différemment au niveau de la démographie. Effectivement, le vautour fauve, c'est une espèce complètement grégaire qui vit, elle, en colonie très serrée et qui fait tout en groupe, dont toute la vie est gérée justement par cette notion de groupe. À l'opposé, le gypaète barbu, lui, c'est une espèce, comme je vous l'expliquais, très territoriale, qui va apprécier qu'il y ait des congénères de sa propre espèce dans un massif important, mais au niveau individuel, chaque couple va défendre auprès des individus de la même espèce un territoire très vaste.
Et où est-ce qu'il se loge ? Dans les falaises également ?
Alors le gypaète, effectivement, c'est un oiseau qui niche en falaise, donc il va utiliser les mêmes habitats que le vautour fauve, donc la plupart du temps une cavité en falaise là, ou une petite vire abritée. Voilà.
Et est-ce que pour ce programme de réintroduction du gypaète barbu, vous avez vu les communes, les territoires environnants, est-ce que vous avez fait un travail déjà avec les collectivités locales ?
Oui, il y a un travail important qui va être continué, hein, qui n'est pas fini. Déjà dans le cadre de ce projet, on a le partenariat des régions, le partenariat des deux départements, le partenariat des deux communes, une en Lozère et une en Aveyron, sur lequel devraient se faire les lâchers alternativement. Et puis, on a comme partenaire du projet à la fois les utilisateurs de l'espace, que sont les éleveurs, les chasseurs, les sportifs et les utilisateurs des sports de pleine nature. Et donc, tout ce travail de concertation, il a été fait à l'occasion de réunions d'information et à l'occasion d'animations qui sont menées à la fois par la LPO Grand Causse et par les deux partenaires principaux de ce projet à nos côtés, que sont le Parc naturel régional des Grands Causses côté Aveyron et Midi-Pyrénées, et le Parc national des Cévennes côté Lozère et Languedoc-Roussillon.
Et le lâcher se ferait sur quelle commune exactement ?
Alors, le lâcher pour l'année 2012, si ça se fait cette année, Menet, il serait sur la commune de Mer-Ueis.
Par rapport bon, au vautour fauve, il y a des placettes. Est-ce qu'il y a des changements par rapport à ça? Qu'est-ce que ça implique très concrètement pour ce type de nourriture finalement?
Là, vous parlez, pour être bien précis, de la mise à disposition des vautours de carcasses issues de l'élevage et issues de mortalité normale qui surviennent dans l'élevage. Alors effectivement, dans ce cadre-là, et c'est une innovation des grands causes qui date du début des années 2000, on utilise avec succès un réseau d'éleveurs qui bénéficie d'un système officiel, qu'ils ont chacun un arrêté préfectoral qui les autorise à déposer dans un enclos grillagé sur leur exploitation les cadavres issus de leurs troupeaux. Donc lorsqu'un animal meurt d'une maladie ou d'accident ou de n'importe quelle autre raison, ben ces éleveurs déposent ce cadavre dans cet enclos qu'on appelle une placette d'alimentation et les vautours viennent consommer ce cadavre et sont donc un partenaire de l'éleveur et sont le système d'écarissage de cet élevage. Là, on a, sur les départements de la Lozère, de l'Aveyron et du Gard, 74 éleveurs, de mémoire, qui ont le droit d'utiliser une placette d'alimentation.
Est-ce que ça a changé quelque chose donc, pour ces placettes, la présence du gypaète barbu?
Ça ne change pas grand-chose. Au contraire, le gypaète barbu va bénéficier de ce système. La région des Grands Causses est donc reconnue comme une zone tout à fait favorable à l'arrivée d'une nouvelle espèce de vautour, puisque ce système de placettes d'alimentation permet au gypaète d'avoir une ressource alimentaire saine et abondante, puisque les eaux des carcasses qui sont déposées sur les placettes d'alimentation seront consommées par le gypaète. Alors rassurez-vous, il n'y aura jamais assez de gypaètes pour manger tous les os des cadavres qui sont déposés sur les placettes d'alimentation. Et les éleveurs, comme ils le font jusqu'à présent, continueront à incinérer les os et la peau qui restent sur leurs placettes.
J'ai cru comprendre qu'en ce moment vous étiez en plein travail. J'imagine que c'est par rapport à cette réintroduction.
Effectivement, en ce moment, c'est une période un petit peu chargée pour nous parce que même si on n'a pas les autorisations définitives,
vous faites comme
il faut
si
qu'on fasse comme si on les avait et qu'on continue à travailler. Et puis qu'on a toutes ces démarches administratives auxquelles il faut aboutir. Donc effectivement, c'est une période laborieuse, mais d'un autre côté, c'est aussi pour que se réalise un très beau projet.
Et c'était Raphaël Néhous, animateur de la Ligue de protection des oiseaux des Grands Causses, située à Peyrelos, puisque je rappelle que nous sommes dans la caravane en balade de Radio Larzac avec Radio Saint-Afrique et Radio Temps Rodez pour cette heure d'émission. Et nous sommes donc à Veyrot, sur le canton de Peyrelos. Donc bientôt, on va voir peut-être des gypaètes barbus sillonner le ciel. Je ne sais pas si vous les verrez jusqu'à chez vous.
En tout cas, pas à Rodez. Hein.
Vous aurez compris qu'il n'y en a pas beaucoup, qu'il n'y en aura pas autant que les vautours fauves, puisqu'ils sont beaucoup moins productifs, on va dire. Un petit rappel, hein, les vautours fauves, on en est à 367 pontes pour cette année. Donc ça va donner, je pense. Les vautours moines, 20 couples ont pondu et au moins 8 poussins sont au nid. Hein, c'est un recensement récent de la LPO. Les vautours percnoptères, 3 couples sont présents dans les Grands Causses et il y en a 2 qui sont en incubation pour le moment. Voilà, c'était pour faire un petit état de où on en était, puisqu'à Véro, on voit passer ces grands rapaces.
L'actu en direct des nids.
Percnoptères, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Non, il n'y en a pas beaucoup. Manu!
Facile à reconnaître d'ailleurs.
Tu
pas facile
nous...
à dire. Hein.
Pas facile à dire. Mais il vaut mieux dire vautour d'Égypte, c'est mieux.
Oui. tu voulais nous parler de traction animale.
Oui,
je crois.
La semaine dernière. Alors on dit semaine dernière, mais voilà. On ça sait dépend, pas quand hein, ça va être diffusé. Le 15 mai a eu lieu au lycée agricole de la Cazotte une journée de promotion sur la traction animale qui était animée par ce lycée. Et moi, j'ai rencontré des gens de l'association Promata qui s'occupe de promouvoir ce type de traction. Cette association est née dans l'Ariège. Et bon, pour ne pas s'étaler, on va écouter Claude Sandillon qui, lui, est formateur à ce procédé et prestataire de services en viticulture. Claude Sandillon de l'association Promata.
Claude Sandillon, qui lui est prestataire et formateur en viticulture et qui aussi s'occupe un petit peu de technique, je vois, l'évolution des machines, des concepts.
Tout à fait, oui. Du moins en ce qui concerne la viticulture et en ce qui concerne aussi la spécificité de la traction animale, c'est-à-dire comment mettre un animal au travail, comment utiliser sa puissance, comment l'entretenir dans ses conditions physiques, etc. Parce que le cheval, c'est un athlète qui a besoin d'être entraîné et de travailler régulièrement. Autrefois, on n'avait que ça comme source de traction, donc il n'y avait pas de problème, l'animal travaillait tous les jours. Aujourd'hui, on fait des fois des mixtes, on a des techniques de culture un peu différentes, des surfaces moins grandes, donc on n'utilise pas forcément les animaux tous les jours. Donc il faut être capable de savoir, d'apprécier ce que l'animal est capable de faire quand on veut l'utiliser, quoi. Et ne pas partir sur un travail trop fort, parce qu'on risque de le dégoûter, d'avoir des défenses, etc., et d'avoir des ennuis, donc voilà.
Sur l'outillage, la traction animale existait avant, on avait mis en place des outils, on revient à ce type de travail. Est-ce que les technologies actuelles ont permis de concevoir des outils différemment ?
Alors, des outils, oui, différemment. Enfin, l'utilisation des outils, du moins le processus d'utilisation des outils est différent. Tout simplement parce qu'on a des connaissances en agronomie, en fonctionnement des sols qu'on n'avait pas il y a 150 ans ou 100 ans en arrière. Et on a aussi une approche sur l'utilisation des animaux, sur leur fonctionnement, etc., qu'on n'avait pas non plus forcément autrefois. Et donc, on a, à partir de là, un regard différent. Donc, quand on travaille en traction animale au niveau des sols, sur les préparations de sols, on travaille différemment tout en utilisant des outils qui étaient déjà utilisés autrefois. Et puis après, on a rajouté d'autres outils. Bon, aujourd'hui, par exemple, en traction motorisée, on utilise des doigts bineurs qui sont animés simplement parce qu'ils sont posés sur le sol et donc ils désherbent de chaque côté de la plantule, etc. Bon, ben, on a pu ces outils-là qui sont utilisés donc en traction motorisée sont utilisés également en traction animale. On peut tout à fait les adapter. Donc c'est en cela que la traction animale elle est moderne, c'est-à-dire qu'on est bien dans une polyvalence, une utilisation d'outils, de complémentarité, etc. Et sur le travail du sol, bon, nous on a développé des techniques de culture sur but. Donc on avait parlé tout à l'heure, je pense, avec Thierry. Donc là, bon, je vais pas m'éterniser là-dessus. En viticulture, bon, bah, le problème qu'on a, c'est que il y a des vignes qui sont très étroites dans lesquelles le tracteur ne passe pas et donc la traction animale, bah, le cheval peut passer. Donc là, c'est le cas par exemple dans l'Hérault, sur un domaine où je travaille, dans l'AOC Saint-Chinian, où il y a 3 hectares de vignes qui ne sont pas du tout travaillées depuis que le cheval a disparu. Et donc depuis 3 ans, on a repris une régénération au niveau des sols, une restructuration, enfin remettre la structure du sol en place et le fonctionnement agronomique et biologique du sol par rapport aux vignes, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un intérêt. Donc à partir de là, bon, bah, on reprend les outils effectivement qui étaient utilisés en viticulture. On les utilise aussi peut-être différemment parce que là aussi, dans ce qu'on recherche, en général, on a affaire à des viticulteurs qui travaillent en bio. Donc sur la typicité de leur vin, etc., ils recherchent des travaux de sol et des amendements qui vont être différents d'une région par rapport à une autre, quoi, et en fonction de ce qu'ils veulent obtenir. Et à partir de là, on adapte effectivement les différents outils, quoi.
Est-ce que c'est une approche ? Est-ce que la traction animale dans la viticulture, c'est quelque chose qui commence à rentrer dans les mœurs ou c'est assez difficile ?
Alors, ça rentre bien dans les mœurs. Je pense que, bon, en maraîchage, la question ne se pose pas. Économiquement, c'est tout à fait viable, rentable, pardon. Par contre, en viticulture, c'est pas, au premier abord, c'est pas forcément rentable, dans un premier temps. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont cherché la traction animale pour une image, hein, le retour à la nature, l'écologie, etc. Mais dans un deuxième temps, quand même, ceux qui travaillent en traction animale depuis un certain nombre d'années ont pu faire, notamment en Bourgogne, enfin, dans des vignes qui sont relativement étroites, dans le Beaujolais, etc., dans le Bordelais aussi. On a pu faire quand même des comparaisons au bout de plusieurs années de travail du sol en traction animale et au tracteur, et on peut s'apercevoir. Le problème de la viticulture, si vous voulez, c'est que le tracteur passe toujours au même endroit. Et donc il y a un tassement, et comme par hasard, ce tassement, il est près des racines des souches. Et donc on peut décompacter avec les outils derrière le tracteur, il n'y a pas de problème. Mais bon, entre compactage et décompactage, c'est vrai qu'on a des réactions mécaniques au niveau du sol qui ne sont pas forcément toujours bonnes, quoi. Donc l'intérêt du cheval à ce niveau-là, il est en train de se démontrer sur le fonctionnement des sols. Après, quelle surface on peut utiliser en viticulture pour dire qu'on peut être, que économiquement ça peut être viable. On installe, nous, en ce moment, beaucoup de jeunes sur 5, 6, 8, 10 hectares grand maximum en viticulture bio, transformation sur place, donc cave particulière et circuit court de distribution. Et là, on est bien, effectivement, dans les trois paramètres qui sont nécessaires pour viabiliser la traction animale en agriculture. Donc, circuit court de distribution, transformation sur place et petite surface. Quoi. À partir du moment où on travaille dans ce concept-là, on peut effectivement avoir une activité agricole qui est économiquement qui est tout à fait rentable.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, à part le maraîchage, la viticulture, où cette traction animale pourrait être utilisée ?
Alors effectivement, toujours avec le même concept hein, de ces trois principes de base, on a par exemple le paysan boulanger, c'est-à-dire quelqu'un qui fait son pain chez lui, c'est-à-dire il va cultiver le blé, pas pour le vendre à la coopérative ou pour le distribuer, etc. Il va garder le blé chez lui, le transformer sur place et faire du pain, et à partir du moment où il peut valoriser sa production en valeur ajoutée, il a effectivement la possibilité, là aussi, dans des circuits courts de distribution, de vendre un pain bio, etc. Mais on est toujours dans des surfaces relativement raisonnables. C'est-à-dire, un paysan boulanger va travailler avec deux chevaux de trait, avec un porte-outil adapté, et il va cultiver 4-5 hectares de céréales en fonction de la production qu'il veut faire, et il peut avoir autant de surface à côté pour faire les foins, pour avoir de l'enherbement, pour avoir de la matière organique aussi, parce que bon, l'intérêt aussi de la traction animale, c'est que l'animal non seulement produit de l'énergie, mais en même temps, il produit de la matière organique qu'on peut réintroduire dans le sol, alors qu'avec le tracteur, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Quoi. Voilà. Donc, on est obligé d'apporter de l'extérieur. Alors que là, on a aussi une production de matière organique qui est intéressante. Donc, ça veut dire qu'on peut régénérer aussi les sols en matière organique, etc. etc. Et là, bon, toujours pareil, ça peut être effectivement rentable. Et nous, là, au niveau de l'association, on a un porte-outil où on peut travailler à deux ou trois chevaux. Donc là, on peut faire de la culture plein champ, soit en culture légumière, soit en céréales. Et à ce moment-là, on évolue, on agrandit un petit peu le champ de possibilités de l'utilisation de la traction animale. Quoi.
Vous me parliez de 2-3 chevaux, on va mettre beaucoup ?
Non. Bah, on peut, enfin oui, il y a des. En Allemagne ou aux États-Unis, il y a des régions où on utilise effectivement entre 4 ou 6 chevaux en attache, etc. Alors après, il faut quand même. Ou effectivement, bon, c'est pour faire du folklore ou de la démonstration, ou c'est dans une réalité d'installation, on peut très bien, très vite comprendre que s'occuper de 4 ou 6 chevaux pour pouvoir travailler des surfaces plus grandes sur 30 hectares, 50 hectares, etc., ça nécessite de la main-d'œuvre. Ça nécessite une organisation, des choses qui se faisaient autrefois parce que la main-d'œuvre n'était pas chère. Aujourd'hui, quand on rémunère effectivement quelqu'un, même avec un salaire minimum, on a quand même des charges qui sont importantes parce que bon, bah, on a la vitesse de déplacement de l'animal qui est lente, donc on a des surfaces relativement courtes quand même en utilisation. Mais bon, on peut raisonnablement, on peut travailler seul avec 2 chevaux, ça pose aucun problème. Avec 3, bon, bah, si on a une formation qui le fait, avec 4, pourquoi pas, mais après, au-delà, je pense quand même que c'est aller un peu trop loin. Quoi. Puis bon, le temps qu'on passe dessus, le coût que ça a, parce que bon, c'est quand même des animaux qui mangent, donc ça veut dire qu'il faut de la surface pour produire, il faut du matériel pour réaliser les foins, etc., etc., et il faut beaucoup de temps. Et en général, les fenêtres pour faire du foin sont relativement courtes, donc voilà, il y a des limites quand même à la traction animale. Quoi.
Alors je pensais à un truc, là on parle d'agriculture, de culture, est-ce que dans des collectivités territoriales on pourrait utiliser ce genre de produit et est-ce qu'on pourrait aussi utiliser par exemple du transport de personnes ?
Tout à fait, bon, ça se fait, il existe actuellement un certificat de spécialisation, donc un diplôme professionnel qui a été mis en place, qui est reconnu par le ministère de l'Agriculture, et les trois secteurs dans lesquels effectivement les gens peuvent intervenir, donc sont formés sur ce secteur, outre l'animal, les harnais, etc., on a l'utilisation des chevaux en ville, hein, c'est-à-dire transport de personnes sur des sites touristiques. Il y a même certaines communes qui font du transport scolaire aussi. Là, on est toujours pareil, des circuits courts hein, pour pouvoir utiliser d'une manière rentable les animaux. Ensuite, le ramassage du tri sélectif peut effectivement être fait en traction animale. Il y a beaucoup de communes qui s'y sont mises et c'est en train de se développer aussi d'une manière impressionnante. Quoi. Et après, donc, le travail du sol, bon, on revient sur le volet agricole. Donc ça, c'est les trois secteurs qui sont mis en place sur la formation du certificat de spécialisation. Et je pense que sur Sainte-Afrique, ils sont en train d'en mettre un en place pour l'année prochaine. Quoi. Voilà.
La traction animale, c'était le choix de sujet de Manu Garcia de Radio Sainte-Afrique pour cette émission Méninges à Trois, enregistrée et diffusée en direct de Veyrot sur le Causse-Noire. Alors tu t'es dit, à Veyrot, si ça se trouve, il y a de la traction animale, c'est ça ?
Oula, j'y ai pas du tout pensé. Je pensais pas franchement que... ouais, parce que ça se développe pas forcément dans les endroits où l'on croit. Beaucoup plus dans les grandes villes. Et c'est vrai que, comme il parlait de tri sélectif, c'est des usages qui pourraient se développer de plus en plus et qui seraient très, très intéressants. Maintenant, à voir si les différentes communautés de communes ou je ne sais pas quoi veulent bien se pencher sur le problème. Il y en a, en France, il y a plein de petites, non, je ne sais pas, de villes, puisque j'en ai discuté avec quelqu'un du parc, et qui me disait que l'attraction animale, on s'en servait dans les villes. On discutait aussi de... Je ne sais pas si on l'a entendu dans le sujet, là, de l'avantage de cette attraction animale, c'est que quand tu es sur un tracteur, tu es tout seul et tu n'as qu'un cerveau, il me disait. Et quand tu es avec un animal, il y en a deux. Il y a deux cerveaux. Donc du coup, tu en as un qui sert à vérifier ce que tu ne peux pas voir et toi, tu peux faire le reste. Ça, c'est intéressant parce que sur un tracteur, tu es tout seul et tu fais tout le boulot tout seul, devant, derrière, sur les côtés, partout. Tu es obligé de regarder ce qui se passe. Alors que là, tu as un cheval, un âne ou un bœuf. Et voilà, tu le laisses faire. En général, il ne se plante pas, quoi.
C'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on fait une émission à trois, d'ailleurs. Hein. Comme ça, il y a trois cerveaux.
Il y a trois cerveaux. C'est plus facile. On réfléchit.
Ménage à trois, d'ailleurs, ça s'appelle. Hein.
Ménage. Voilà. Donc là, on a écouté quelqu'un de l'association Promata, donc qui depuis 20 ans s'occupe de traction animale. Et alors, c'est pas un retour en arrière, comme il disait, a priori, puisque c'est un truc à venir. On adapte les outils en fonction de la demande. Et voilà. Dans le sujet, la personne qu'on n'a pas entendue, c'est le maraîcher qui était là et qui, lui, alors, il fait tout avec son cheval. Et franchement, il s'en sort très, très bien. Et quand il est arrivé, il est dans la commune de Montcuq. Dans le Lot, ce fameux petit village qui est éclairé la nuit.
Sois poli, s'il te plaît.
Ah, écoutez, moi, je dis, voilà. Et lui, quand il est arrivé, il y a 8 ans dans le village, non, 10 ans, les gens le regardaient avec des yeux, ils disaient, toi, tu vas te casser la gueule, tu vas te ramasser grave. Et là, depuis 2 ans, tous les paysans viennent le voir parce que les autres, ils sont serrés par le Crédit Agricole et lui, il n'a pas fait l'emprunt. Du coup, il s'en sort beaucoup mieux que les autres et ils sont là à le regarder. Tiens, mais comment il fait? Qu'est-ce qu'il fabrique là avec son truc? Et franchement, il s'en sort très, 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 très bien. Il était avant en commercial chez une marque de photocopieurs et là, il est vraiment content.
Ça inspirera peut-être des paysans de Veyrot. Jean-Pierre, il y en a de l'attraction animale à Rodez ?
Alors, il y a les haras nationaux, comme tous les ruténois et grands ruténois le savent, puisque c'est une ancienne chartreuse et que c'est par ailleurs un magnifique monument à visiter. Mais à l'intérieur, il y a effectivement cet élevage de chevaux, pas de traits, parce qu'en fait, ce sont des étalons hein, essentiellement. Non. Mais ils ont quelques chevaux, eux, pour travailler justement. Ils utilisent très peu... tracteurs classiques, ils ont leur petite chariote, ils ont voilà, et alors au beau jour, hein, ça va arriver hein, bientôt, ils vont sortir dans les rues de Rodez et ils font profiter aussi quelques touristes. Parce qu'on voit ça aussi dans certaines villes, ça peut être aussi un objet touristique.
C'est dommage parce que ça marche agricole. Tous les jours de l'année quand même.
Oui, alors, ça peut être utilisé tous les jours, mais à Rodez, je suppose que c'est pour des conditions de météo. Ils ne les sortent pas tous les jours, mais ils les utilisent quand même régulièrement.
Et puis ça monte. Et ça conditionne des niveaux aussi.
Voilà, c'est quand même... voilà. Mais voilà, ça, c'est une utilisation. Mais moi, ce que je peux dire par rapport à ça, il me semble que c'est un retour aussi à la lenteur. Un petit peu d'absence de vitesse ne fait pas de mal en ce bas monde. Et si on pouvait réduire toutes les activités en termes de productivité, justement, alors évidemment, ça va faire bondir peut-être certains.
C'est un contre-courant.
Si je dis ça. Oui, voilà, c'est un contre-courant. Mais l'animal aide aussi à ça, à reprendre la mesure de l'espace dans lequel on vit et du temps qui passe parce qu'on nous abreuve évidemment de nouvelles technologies qui vont très très vite. Mais seulement le cerveau, comme tu disais, il y a deux cerveaux, mais les cerveaux ne vont pas beaucoup plus vite. Hein. Les cerveaux humains, non, pas beaucoup plus vite, je pense pas. Hein. Non, en 50 000 ans, ça n'a pas beaucoup progressé. Et en revanche, on va, ça c'est sûr, trop vite dans le mur. Donc si on pouvait y aller plus lentement, ça serait
ça
mieux.
Ça ferait moins mal.
Et alors comme le cheval est effectivement, ou l'animal est devant, il voit le mur arriver. Et lui, en fait, il tourne, il n'est pas con. Et à un moment, il tourne avant de se le prendre de face. Voilà. Non, mais je crois que c'est important aussi l'éloge de la lenteur. Hein. Puis relisez Viriot aussi, hein, la catastrophe à pleine vitesse, elle arrive. Alors moi, je trouve que c'est intéressant. Ce n'est pas un retour en arrière. Après tout, est-ce qu'on retourne en arrière, à part dans les films de science-fiction ?
C'est un pléonasme, d'ailleurs.
C'est bizarre, d'ailleurs, les contradicteurs qui disent toujours on revient en arrière quand on parle de choses qui se faisaient peut-être... Et alors, c'était peut-être plus intelligent que ce qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi dire que c'était en arrière ? Ils étaient peut-être plus intelligents que nous. Peut-être que les Babyloniens, les Égyptiens, ils avaient des techniques qui étaient plus intelligentes que nous. Alors, ça ne fait rien. On peut bien les piquer, mais on ne revient pas en arrière. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est des machines à remonter le temps. On ne sait pas les faire, hein, encore.
Enfin... Bon, c'est déjà difficile, hein, de faire une marche arrière avec une traction animale.
Donc, ça
peut... Et l'éloge de la lenteur, j'y reviens parce que, voilà, sur les discussions que j'ai eues autour de ça, quelqu'un disait que sur le tri sélectif, par exemple, c'était intéressant parce que, du coup, le fait que les ramassages se fassent plus lentement, les gens rentrent en contact avec les ramasseurs, je sais pas
les
comment,
reapers, les collecteurs. On les appelle les reapers.
Bon,
reapers,
c'est un terme technique. Mais bref, peu importe. Et du coup, il y avait une action pédagogique qui pouvait être mise en place sur comment c'est trier, parce que c'est quand même un gros souci actuellement. On trie, mais on trie n'importe quoi. On ne sait même pas ce qu'on met dans les fameux sacs jaunes. Donc, du coup, c'est né. Et ça peut aider à essayer un peu d'éduquer nos chers concitoyens à trier correctement. Donc sur le tri, mais par exemple après sur, on va abréger, mais sur les gardes verts qui se déplacent aussi à cheval dans certains parcs, aussi le contact avec la population se fait beaucoup plus facilement que voilà, quand tu vas en voiture, en 4x4 ou autrement.
Ceci dit, on le voit bien, on est arrivé au fameux pic de Uber aussi. Le pétrole ne va pas cesser d'augmenter. Il faut arrêter aussi de dire, parce que tout d'un coup, on a un changement de gouvernement, les prix de l'essence sont bloqués. Ils n'ont jamais été d'ailleurs au bon prix. Hein. L'essence n'a jamais été payée dans ce pays au prix qu'il devrait l'être, hein, par le consommateur. Mais de toute façon, tout ça va prendre fin. Donc à un moment donné...
Ah, super.
Ben oui, et dans un avenir plus ou moins proche. Alors, savoir manier un cheval, savoir connaître un âne, comment ça fonctionne, etc. Alors, je ne dis pas que dans les grandes villes, ce n'est pas, peut-être pas utilisable, mais en tous les cas, tous ces gens, tous ces braves gens qui se sont mis dans des lotissements à l'extérieur des villes et qui auront du mal à payer leur essence, malheureusement, ça me fait sourire, mais à moitié, hein, c'est un sourire
campagne.
Jaune. Hein. Ou à la campagne
à
aussi.
À Veyron, par exemple.
A fortiori, comme il y a l'autre. Donc là, je pense que c'est bien de revenir aussi à ce contact avec un compagnon, mais qui peut être aussi utile pour se déplacer. Et peut-être qu'on va redécouvrir aussi, et ça, c'est, je trouve que ça rejoint aussi notre problématique des radios locales de proximité. Enfin, on va peut-être moins s'intéresser à ce qui se passe à 10 000 km d'ici, ou baver sur New York, Tokyo ou Los Angeles, mais peut-être qu'on va s'intéresser finalement à ce qu'il y a à 10 km autour de nous, parce que le cheval, l'âne, ce que vous voudrez, le bœuf, il ne va pas aussi vite, mais par contre, il va ouvrir des chemins, réouvrir d'autres chemins, et il va nous amener dans des endroits où on n'allait pas, parce que la bagnole, elle n'y allait pas, à moins qu'on soit un bartassier là, et qu'on esquinte les chemins avec les 4x4. Mais voilà, donc on va peut-être aussi redécouvrir vraiment son environnement au pas du cheval. Moi, je trouve ça, cette idée assez intéressante. C'est peut-être une idée écolo, mais tant pis. Après tout, je veux dire, aujourd'hui, on s'en sortira que comme ça. Hein.
D'ailleurs, je précise que Jean-Pierre est venu à cheval depuis Rodez, depuis Radio Temps Rodez, et qu'il est parti il y a 3 jours, c'est ça, hein.
J'en avais 7 chevaux.
C'est là que ça va faire chaud, quoi. C'est la distance à parcourir. C'est vrai que là, c'est même pas 10 kilomètres qu'on va découvrir. C'est pas 10 kilomètres.
Mais peu importe, on va réduire notre champ d'action. Où est le problème? Où est le problème ? La relocalisation, c'est bien relocaliser. Si c'est pour faire comme avant, avec les mêmes techniques, moi, ce qui me fait peur dans le discours que j'ai entendu, c'est que, oh non, mon Dieu, attention, bon, je parle de chevaux, mais d'abord, on ne va pas revenir en arrière. Puis ça ne va pas concurrencer, hein, vous inquiétez pas, hein, vous allez pouvoir continuer à vendre des tracteurs, vous allez pouvoir faire fonctionner les entreprises qui fabriquent tout ce matériel. Vous inquiétez pas, hein, on voit qu'ils se défendent quand même un petit peu, même ceux qui sont là pour promouvoir ce genre de technique.
Il faut quand même se faire à l'idée que on va pas tout arrêter, la voiture va pas s'arrêter comme ça là. C'est pas.
Si.
Ceci dit, pour cette émission, par rapport à l'éloge de la lenteur, je pense qu'il faut que nous accélérions un petit peu, n'est-ce pas, Jean-Pierre ?
Nous allons passer au troisième sujet.
Nous allons passer au sujet que tu as préparé, Jean-Pierre. Et
alors que j'ai préparé, surtout avec la rédaction
de l'artisanat,
la grande rédaction de RTR, donc Delphine en l'occurrence, Delphine Gratus, qui est allée rencontrer là aussi quelqu'un qui prend son temps. Donc c'est y a une belle continuité dans cette émission, qui prend son temps pour faire de la belle ouvrage, pour faire des articles qui ne sont pas reproduits, répliqués à des milliers d'exemplaires et vendus dans des endroits sans âme et sans aucun intérêt. Non, là, c'est un atelier. C'est une dame qui a décidé d'installer cet atelier sur une commune qui s'appelle Montérazès. Montérazès, parce que ici, en Sud-Aveyron, enfin, je parle du côté de Millau ou de Sainte-Afrique, c'est pas très connu, mais c'est, disons, vers le sud-ouest de Rodez, à une vingtaine de kilomètres environ. C'est en Ségala, voilà, pour situer la région. Autant dire qu'il n'y a pas... C'est un petit village, hein, qui vit bien, mais bon, il n'y avait pas tant de personnes qui voulaient s'installer là. Et cette Sabine Erhardt, puisque c'est son nom, comme elle est très douée en tant que couturière de ses doigts, qu'elle a fait des costumes pour le théâtre, des costumes pour des téléfilms aussi, elle s'est dit, tiens, je vais m'installer là, puis je vais faire... Alors là, évidemment, elle ne va pas pouvoir vivre de cet art, de la fabrication de costumes anciens, mais elle sait très bien faire les robes de mariée et les bustiers en particulier. Alors j'ai pensé que ce sujet, à la... quelques jours, peut-être, enfin c'est la période, hein, bon, vous me direz c'est la période de tout, c'est la période des élections, c'est la période des mariages aussi. Hein.
Oui, si tu veux.
Ouais, si on veut, voilà. Donc on peut le raccrocher à ça. Donc Delphine est allée dans son atelier, lui demander quelle était sa démarche, comment elle travaillait, puis écouter aussi le joli son de ces vieilles machines à coudre qu'on n'entend plus maintenant, puisque tout ça est fait en usine. Donc en introduction...
C'est surtout qu'elles sont très loin, les machines à coudre.
Oui, en plus elles sont très loin. Donc je vous propose de les écoutez, alors juste je vous précise que vous allez entendre Sabine Erhardt, voilà, tout de suite, sur Arte, sur Ménage à 3.
Alors là, je suis en train d'enfiler mon fil dans le chat de l'aiguille. Je redresse le fil afin de faire sortir le fil de canette également. Sinon, le nœud ne peut pas se faire et sans nœud, il n'y a pas de couture. Alors là, je vous présente donc un corset qui prend en compte la poitrine, donc qui n'a pas de busque sur le devant, donc qui s'enfilera. Un busque, donc, c'est des petits crochets qui permettent de le fermer sur le devant. Là, c'est un corset victorien à gousset, c'est le nom du modèle. Donc les goussets permettent de rajouter en quelque sorte des triangles de tissu. C'est parfait pour les poitrines un peu importantes, donc ça permet de les soutenir. Donc là, j'ai choisi de le faire un peu façon années 60, rouge et noir, un peu baby doll. Alors le lassage, hop, je retourne le mannequin. Le lassage donc est fait avec des œillets de corsetterie, donc qui ne griffent pas sur l'arrière et qui sont solides. Et pour renforcer leur solidité, on les encadre avec des baleines dites plates, puisque les autres baleines sont en acier spiralé. Les baleines d'œillets, c'est des baleines plates pour supporter la tension du corset. Etheria, ça vient de notre ancienne vie professionnelle, on va dire ça comme ça, avec mon compagnon. C'était le nom d'un monde qu'on avait inventé pour les enfants, pour jouer avec eux. Et on trouvait que les ateliers d'Etheria, ça sonnait bien. Puis ça faisait une passerelle entre notre ancienne vie et la nouvelle. Ma première création de couture, je l'ai faite sur une célèbre poupée Mattel. J'avais 7 ou 8 ans. C'était une robe de princesse, comme je l'imaginais, avec les grandes manches voilà, qui traînent par terre. Donc j'ai toujours été un peu imprégnée de cette imagerie un peu médiévale. Et puis au fur et à mesure, j'ai complété mon imaginaire avec des vraies images historiques, des enluminures, des gravures. Donc c'est là où je puise mon inspiration. Et la couture. J'ai toujours cousu, j'ai toujours vu ma maman aussi coudre, tricoter, broder. Alors broder, j'ai jamais accroché. Mais du coup, j'ai commencé par coudre des accessoires, puis des vêtements, puis du patronage. Donc c'est vrai que j'ai été autodidacte. Ça m'a aussi permis d'avoir une certaine liberté de création et de n'être pas bloquée par, on va dire, un apprentissage scolaire. Quand j'avais une idée, je cherchais comment la réaliser et pas en me disant « c'est pas possible, on va pas y arriver ». Et suite à une reconversion professionnelle, donc j'ai passé à un CAP couture et je me suis installée dans mon activité. Ma démarche, c'est vraiment d'accompagner la mariée ou la personne qui souhaite avoir un corset afin de créer un modèle le plus proche possible de ses envies, de ses souhaits. L'ancêtre du corset, on va dire, c'est sous Louis XIV. Et donc, pourquoi aujourd'hui ça revient? Donc, le corset, c'est un objet qu'a connu diverses formes, diverses manières de le porter. Aujourd'hui, c'est vraiment revenu comme un accessoire de mode. Quand on porte un corset, c'est vrai que on se sent élégante, on se tient droite, on est belle et femme, sans forcément qu'on soit contrainte, parce qu'aujourd'hui, l'objectif est vraiment que le corset soit le plus confortable possible et le plus beau.
Comment est-ce que cela se porte, un corset aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, un corset, en fonction des modèles, il y a le modèle qu'on appelle overbust qui ne prend pas en compte la poitrine. On peut le comparer un peu comme une large ceinture. On le trouve aussi parfois sous le nom de serre-taille. C'est le modèle un peu plus court. Il se porte comme un accessoire de mode au quotidien afin d'égayer une tenue ou alors en soirée, effectivement, sur une robe longue par exemple. Et le modèle qu'on appelle underbust, donc qui prend en compte la poitrine, celui-là, il se porte en soirée, sur une robe courte, sur une robe longue, sur une robe de mariage. Et il peut aussi se porter au quotidien. Voilà, c'est vraiment selon l'envie de la cliente. Il n'y a pas de contrainte.
Ce sont des pièces uniques ?
Tout à fait, et sur mesure. Enfin voilà, je travaille uniquement sur mesure. Un corset, pour qu'il soit le plus confortable possible, doit être fait sur mesure. Il n'y a pas forcément de cliente type, on va dire. Sur les mariages, c'est des personnes qui cherchent quelque chose qui sorte de l'ordinaire un peu. Et sur les corsets, ma dernière cliente voulait quelque chose d'un peu élégant. Donc elle a choisi un underbust d'un peu élégant, sans être trop chargé, pour pouvoir le porter ou au quotidien, sur un jeans, ou alors assorti avec une jupe longue. Le corset, on peut vraiment l'associer comme on veut.
Il n'y a pas trop de danger pour le corps à porter un corset ?
Alors, effectivement, au début du siècle, ce qu'on appelle la réduction de taille allait jusqu'à 19-20 cm. Aujourd'hui, moi, je propose des corsets de 5-8 cm, juste de manière à affiner un peu la taille et que ça reste le plus confortable possible.
Vous utilisez quel tissu, quelle matière ?
Une des bases indispensables pour un corset, c'est ce qu'on appelle le tissu couti, qui est indéformable. Et après, pour le tissu du dessus, on va dire le tissu joli pour la décoration, on peut faire ce que l'on veut. Voilà, on peut utiliser de la soie, du taffetas, des cotons, du lin, des tissus floqués, du cuir aussi, tant qu'il n'est pas trop épais. On peut vraiment laisser son imagination en liberté.
Combien de temps en moyenne vous passez sur un corset ?
Je ne peux pas vous répondre exactement parce que ça dépend complètement du modèle et de la finition choisie. Voilà, ça peut aller de une grosse journée à une semaine. Voilà, c'est vraiment aléatoire.
Combien coûte un corset ?
Le modèle simple, sans la poitrine, il faut compter à partir de 200 euros.
Vous aimeriez travailler peut-être pour le cinéma, faire des costumes d'époque ?
C'est quelque chose que, effectivement, j'ai déjà envisagé. Pourquoi pas ? Par contre, je ne souhaite pas me déplacer trop loin de mon domicile. Voilà, c'est vrai que c'est un frein à ce genre d'activité.
Sabine Erhardt, couturière et créatrice de robes de mariée et de corsets à Moirazès. Des ateliers de couture sont également proposés, ouverts à tous. Renseignements supplémentaires au 05 65 71 56 99 71 56 99. Delphine Gratus à Moirazès pour Radio Temps Rodez.
Eh bien voilà, un reportage qui ne manque pas de souffle, n'est-ce pas ?
Ah, qui ne manque pas de souffle, et ça m'a tout de suite fait un écho par rapport à Véro, justement, où on est, je le rappelle, pour enregistrer et diffuser en direct cette émission de Ménage à 3. Donc, à Véro sur le Causse-Noire, ça fait écho au fait que une personne m'a raconté que sur cette même place où nous sommes actuellement, il y avait les femmes du village, il y a une cinquantaine d'années, qui cousaient les gants pour les mégisseries, enfin pour les ganteries de Millau. Elles se réunissaient là. Donc on est vraiment aussi dans le sujet.
On est dans l'artisanat, on est dans le savoir-faire, on est dans le temps aussi, le temps qu'on prend pour choisir les matières, le temps qu'on prend pour les dessiner, le temps qu'on prend aussi pour s'occuper de ses clients. Parce que, encore une fois, Sabine Erhardt, on l'a bien compris, elle ne veut pas faire de chiffres, hein, ce n'est pas son problème. Elle, ce qu'elle veut, c'est rendre heureuse, puisqu'elle s'occupe essentiellement des femmes, lorsqu'elle réalise donc un bustier ou une robe de mariée. Et elle veut aller jusqu'au bout quoi, du processus. Elle n'est pas là juste pour faire une vitrine et puis voilà, vendre le produit, débrouillez-vous avec. Donc elle a choisi aussi cette villa à Montirazès, qui est quand même une toute petite commune, hein, même si, encore une fois, c'est assez... Il y a quand même pas mal d'activités, en tout cas agricoles, puisque c'est en plein Ségala. Mais il fallait être gonflé pour installer donc ces ateliers d'Etheria, quelque chose aussi créatif au milieu de la campagne. Voilà, même si pas très très loin, encore une fois, de Rodez. Mais c'est loin de Sainte-Afrique et de Millau, en revanche. Hein. Et vous avez entendu, elle ne se déplace pas, ou très peu, en tout cas. Donc, voilà, vous voulez la voir d'aventure, il faut aller rue de l'Abreuvoir, à Montirazès.
Mais c'est bien, parce que c'est justement... on a beaucoup parlé d'éloge de la lenteur dans cette émission, avec l'attraction animale. Et... voilà, on est là à Veyreau et moi, ça me fait aussi le même effet. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, il pleut, donc on a l'impression qu'on est dans un autre rythme. Et c'est tout à fait des villages où on a envie de s'installer pour faire ce genre d'activité. On n'est pas là pour faire une usine qui doit usiner, justement. On est là aussi pour vivre, pour prendre le temps de vivre. C'est peut-être facile à dire, hein. Il y en a peut-être qui vont me dire, bah oui, mais il faut bien manger, il faut bien... Peut-être, mais quand on arrive à trouver une activité comme celle-ci où on prend du plaisir et on donne du plaisir aux autres, puisqu'on fabrique des choses qui ont de l'âme quand même, une robe faite sur mesure, il faut sûrement avoir un peu les moyens pour se la faire faire, ça me paraît évident. Mais on est dans une autre démarche aussi, quoi. Et bon.
Voilà, donc je rappelle juste qu'elle ne fait pas que des robes de mariée non plus, donc c'est vrai que ça peut paraître un peu cher les robes de mariée, mais elle fait aussi des bustiers, puis des costumes donc historiques. Je m'adresse en particulier parce qu'en Aveyron, il y a un beau tissu, c'est le cas de le dire, de compagnie théâtrale amateur, et qui monte souvent des spectacles, que ce soit pour dans l'année ou des spectacles historiques, de reconstitution, là, comme ça va se faire pour cet été. Donc elle est tout à fait capable voilà, de mettre en œuvre un certain nombre de ces travaux pour le théâtre. Voilà. Et si vous le permettez, pour terminer, si je peux rajouter un mot, alors pas sur les ateliers d'Etheria, mais par rapport à une compagnie que je tiens à saluer particulièrement, le metteur en scène Christian Touzé se reconnaîtra peut-être, c'est la compagnie du Théâtre des Anneaux, qui vient d'être, c'est une info de toute dernière minute, récompensée trois fois au festival de théâtre de Cahors ce week-end, qui avait lieu pendant quatre jours. Il y avait une dizaine de troupes venues de toute la région, donc prix de la ville, prix de jeune public et sélection pour Festea, qui est le plus gros festival de théâtre amateur de France, pour la pièce qui s'appelle Die Probe, le test de Lucas Barfus, pour montrer aussi que la création se fait aussi en amateur, en théâtre, parce que Lucas Barfus est un auteur suisse peu monté, mais c'est la première fois d'ailleurs qu'il est monté en France. Il a été monté uniquement en Suisse, puisque c'est un Suisse. Donc juste pour dire que ce sera le 29 mai au festival de théâtre amateur Donner le Château. Voilà, donc ne manquez pas le Théâtre des Anneaux, parce que ça promet cette pièce contemporaine. Voilà.
Jean-Pierre Alexandre de Radio Temps Rodez et Manu Garcia de Radio Sainte-Afrique, je vous remercie d'être venu jusqu'à Veyreau aujourd'hui pour ce ménage à trois.
Merci de votre invitation.
Merci beaucoup.
Je remercie Fred et Nico qui ont fait la technique de cette émission sur Veyreau depuis la caravane de Radio Larzac. Et je vous dis à bientôt. D'ailleurs, c'est l'émission de juin de Ménage à Trois qu'on vient de diffuser en direct. Mais du coup, on l'enregistre et elle sera rediffusée au mois de juin. Donc je pense qu'on va vous souhaiter aussi de bonnes vacances, puisque cette émission reprendra à la rentrée et on fera une pause pour l'été.
Et n'oubliez pas, hein, prenez votre temps.
Exactement.
Même si on ne vous le donne pas.
Exactement.
À l'heure où les murs se resserrent, clac, clac, regarde le monde, le regard était resserré.
Au royaume des
les aveugles si les borgnes sont rois. Aux commandes des majors, les sourds font la loi. Usine à tort, fabrique de chanteurs qui naissent prêts à tout pour réussir, même une partout dans l'hémicycle.
Ça crame trop dans le showbiz et son ordre abominable. Trop laisser leur conscience à la porte de l'anonymat. À tous ceux de responsabiliser, à frapper en plein cœur. Nous nous lançons des gilets face au temps que des vainqueurs. Écoute,
ne compte pas sur nos voix pour les gens patriotiques, mais tu peux compter sur nous pour exploser la vitrine. Les miens font de la musique sans perdre de compromis, avec un instant de survie pour se l'adrénaline.
Derrière les mots d'une chance, il y a une cause. Sur les barbelés du sang, une cause. On est juste des messagers de notre temps, avec un cœur, des idées pour porter une cause. Si je suis utile, prête-moi ta cause, dans une chanson qui sert à autre chose. Pour les savoir, on ouvre les haut-parleurs comme un hymne à faire pour porter la cause.
Avec des plans de carrière, combien on salit cette passion qui nous brûle de l'intérieur. Combien ont perdu leur âme en sacrifiant l'écriture. Combien pensent que le talent c'est comme une belle signature. Combien ont les yeux qui brillent en évoquant l'assassin. Combien ont la couille au cul en voyant chuter les barèmes. Et les grandes gueules d'hier prêtes à tous les compromis reviennent serrer des poignes dans les coulisses du service public.
C'est chant des insoumis, c'est leur choisir son camp. Yeah. Tu coopères, tu collabores, tu qu'aimes produit de ton temps. Monsieur l'artiste, les yeux collés aux royalties. Prends conscience vite avant de te faire machin. Par la matrice, elle a marqué la musique. Symphonie de Vivendi, depuis que l'art est traîné dans les bulles VIP, idéal, complice d'un système qui pervertit. Moi je suis artiste, et tu l'as seulement pour divertir.
Pourquoi prendre des risques, changer les règles du game. Pour beaucoup, la part du gain reste la notion suprême. Politique et showbiz ne font pas bon ménage. À l'heure du piratage, bien plus de sages que de sages.
Derrière les mots, l'urgence, il y a une cause. Sur les barbelés du sang, une cause. On est juste des messagers de notre temps, avec un cœur, des idées pour porter une cause. Si je suis utile, prête-moi ta cause, dans une chanson qui sert à autre chose. Pour les savoir, on ouvre les haut-parleurs comme un hymne à faire pour porter la cause.
J'ai dévoué à la cause, pas des stars, j'en t'en bats qui ont raquetté la parole. Les gens qui en bavent, c'est pour ceux qui comprennent. Et tous ceux qu'on n'entend pas, ceux qui en crèvent. La même rengaine quand se resserre au rempart. On se rend pas et on s'en tape de vos pressions, de vos pesos, de vos pensifs et de votre pensée. On présente sur vos terres l'invasion dans l'industrie. Voilà la rage, venue des tripes et cracher sur manuscrit.
Pourquoi prendre des risques, changer les règles du game. Pour beaucoup la part du gain reste la notion suprême. Politique et showbiz ne font pas bon ménage. À l'heure du piratage, bien plus de sages que de sages.
Derrière les mots, l'urgence, il y a une cause. Sur les barbelés du sang, une cause. On est juste des messagers de notre temps, avec un cœur, des idées pour porter une cause. Si je suis utile, prête-moi ta cause, dans une chanson qui sert à autre chose. Pour les savoir, on ouvre les haut-parleurs comme un hymne à faire pour porter la cause. Derrière les mots, l'urgence, il y a une cause. Sur les barbelés du sang, une cause. On est juste des messagers de notre temps, avec